Alors ce matin, je vous invite à, avec moi dans l'Épître aux Thessaloniciens à lire un texte pour écouter la parole du Seigneur. Cette parole, comme je le disais en introduction du culte, qu'il veut nous apporter ce matin. Donc, première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 10. Donc c'est toute l'introduction de cette lettre que Paul a envoyée à l'église de Thessalonique et aux chrétiens. C'est toute cette salutation donc du chapitre 1, versets 1 à 10, que nous allons d'abord lire ensemble et que je vais commenter par la suite. Et j'ai pour titre de ce message « Changer de vie ». C'est à la mode ça. Hein. On dit souvent, il y a des gens qui ont besoin tout d'un coup, ils ont besoin de changer de vie, c'est-à-dire aussi de changer de métier, ils font quelque chose qui n'a rien à voir. Mais nous, on va voir ce que la Bible nous dit sur le changement de vie au travers de ce texte. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bon, c'est vraiment... c'est vrai que dans les Épîtres, on ne voit pas très souvent Paul être aussi élogieux. Enfin, ça lui arrive quand même, parce qu'il s'est encouragé, il exhorte. Mais là, vraiment, j'allais dire, c'est dithyrambique, quoi. C'est... Vraiment, apparemment, ces chrétiens de Thessalonique ont reçu cette parole avec une grande joie. Et surtout, ils ont manifesté combien cette parole qu'ils avaient reçue, c'est-à-dire cet évangile, les avait transformés. Alors, Thessalonique, bien, c'est une ville très importante à l'époque. Elle est en Europe. Il faut comprendre que Paul, il vient de Jérusalem. C'est quand même le Moyen-Orient. Et bon, aujourd'hui, on connaît cette région pour des raisons, malheureusement, qui ne sont pas les mêmes. Mais l'Évangile, il ne vient pas d'Occident, hein, il vient du Moyen-Orient. Paul, donc, a traversé la mer et il est en Europe, cette ville de Thessalonique, donc, est une ville très importante en Europe, dans laquelle Paul a séjourné lors de son voyage missionnaire. Il a donc témoigné du Seigneur, il a enseigné, il a fondé cette église. Dans cette ville, donc, Paul y a prêché un évangile qui encourageait les auditeurs à changer de vie, quel que soit d'ailleurs leur passé, leurs conditions sociales, parce que faut s'imaginer que dans ces régions-là et dans ces villes-là, eh bien, il y avait bien sûr des personnes issues de différents milieux sociaux et d'arrière-plan religieux aussi. Hein. Il le dit lui-même au verset 9, il se réjouit de voir comment ils se sont tournés vers Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles. Verset 9. Paul donc croyait qu'il était possible bien de changer de vie concrètement. Parce que là, on parle vraiment de conversion au sens strict du terme. Je vais le développer tout à l'heure. Une conversion, c'est un changement de direction. Ce n'est pas simplement un retour à un point donné. C'est réellement un changement de direction pour vivre une vie radicalement différente. Le texte pose une évidence. Ce changement de vie ne s'opère bien que si l'on croit, premièrement, qu'il est nécessaire de changer de vie. On ne change pas de vie par hasard. Pour recevoir bien la vie de Dieu, et que deuxièmement, cette vie qu'on va recevoir, elle se vit dans la foi en Jésus-Christ, qui est le ressuscité, le seul qui possède justement cette vie nouvelle, la vie du ressuscité, la vie qui nous permet de vivre une vie radicalement différente. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit ailleurs, dans sa première épître, chapitre 5, verset 10, « Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu » à ce témoignage en lui-même. Ce témoignage, eh bien, c'est quoi ? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, elle est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce que Paul dit dans ce texte d'une autre façon, quand il parle que celui qui n'a pas le Fils, eh bien, reste sous la colère de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas la vie éternelle, il n'est pas réconcilié avec Dieu, il ne peut pas connaître cette communion avec le Père en dehors de la vie du Fils, de la vie du ressuscité. Donc ce changement de vie, il commence par la réception d'une vie nouvelle, celle du ressuscité, celle de Jésus. Et quand on reçoit cette vie nouvelle, on ne peut plus vivre selon l'ancienne façon de vivre. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle la conversion. La conversion n'est pas le résultat, je le précise, d'un effort personnel pour essayer de s'améliorer ou de changer de croyance ou de religion. Ce n'est pas un simple changement de croyance. La conversion, c'est réellement ce passage à une autre vie, celle de Dieu. Et c'est lui, c'est Dieu lui-même, par son esprit, la puissance de son esprit saint, qui opère ce passage et qui nous communique la vie de Jésus. La conversion, donc, elle exprime dans la Bible un retour à Dieu. Un retour, comme je disais tout à l'heure, non pas qui nous fait revenir, parce que souvent quand on dit un retour, on retourne à la maison, ben, on revient au point de départ finalement. On n'a pas vraiment changé de direction. Avec le Seigneur, ce n'est pas un retour à un point de départ où on ne revient pas à un lieu qu'on a connu avant. C'est un retour qui exprime réellement un changement radical. Un changement radical de direction. Et c'est réellement le sens de la repentance, dans le texte grec, c'est métanoïa, c'est-à-dire une pensée qui est réellement transformée parce qu'on a reçu la pensée du Seigneur. Alors désormais, bien, on ne peut plus faire les mêmes choix de vie, on ne peut plus prendre les mêmes décisions. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a abandonné ce que Paul appelle pour eux les idoles. On a abandonné notre ancienne façon de vivre et on n'a plus la même pensée. On a la pensée de Christ. Voilà, la pensée de Christ, ça c'est beau ça. Quel privilège. Voilà encore un sujet qu'on pourrait aussi se servir comme point de départ pour notre louange et notre adoration à Dieu. Donc ce terme « retour à Dieu », il implique un double mouvement, un mouvement d'abandon, le texte dit ils ont abandonné les idoles, et un mouvement d'accueil, on se tourne vers Dieu. Un mouvement d'abandon, bien, c'est se repentir de nos péchés. Mouvement d'accueil, c'est placer notre confiance dans Jésus le Christ, celui que le Père a envoyé pour nous conduire dans cette vie nouvelle, pour être sauvés. Mais quand on parle de sauver, c'est réellement une vie qu'on reçoit. C'est la vie des sauvés, la vie des chrétiens, c'est la vie du Christ finalement qui va s'incarner dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, dans notre façon de percevoir les autres et de nous percevoir nous-mêmes aussi et de comprendre Dieu. Donc ce double mouvement d'abandon et d'accueil, il est quasiment simultané en réalité. C'est clairement l'expérience de ces chrétiens de Thessalonique, et je reprends ce verset 9. Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles. Autrement dit, c'est concomitant. Au moment où on se détourne des idoles, eh bien, on ne peut que se tourner vers Dieu. Parce qu'on a été créé pour se tourner vers Dieu. Au moment où on se tourne vers Dieu, eh bien, on est obligé d'abandonner les idoles, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois le seul Dieu, le Dieu vrai et véritable, et en même temps adorer les idoles. Donc c'est réellement un mouvement qui est simultané. Ces deux mouvements sont donc nécessairement liés l'un à l'autre. On ne peut pas les dissocier. Un chrétien ne peut pas vivre avec des idoles. Un chrétien ne peut pas vivre avec des idoles, frères et sœurs. Parce qu'il est avec le Dieu vrai, le Dieu vivant. Ce double mouvement d'accueil, donc, et d'abandon, il est simultané. Et c'est clairement l'expérience de ces chrétiens de Thessalonique. Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles. La repentance nous pousse vers le Dieu saint, le Dieu trois fois saint. Ces deux mouvements sont vraiment liés. Donc le premier mouvement, le mouvement d'abandon, je l'ai dissocié pour des raisons de commentaires là, mais comme je vous ai dit, c'est quasiment simultané. Le mouvement d'abandon, donc cette repentance, eh bien, l'Écriture le dit ailleurs et dans les évangiles, Jésus l'a enseigné, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la perdra, on se détourne des idoles, il la retrouvera. Il la retrouvera, ce qui montre bien que cette vie éternelle, elle se vit dès maintenant. Attention, l'expression « perdre sa vie à cause de moi » n'a rien à voir avec, vous savez, l'attitude des kamikazes, hein. Perdre sa vie. Il y a des martyrs qui se suicident et qui se font exploser pour gagner le paradis. Ces kamikazes ne sont pas des martyrs en réalité, à l'inverse des martyrs chrétiennes, parce que les martyrs chrétiens ne se suicident pas. Et d'autre part, en réalité, quand ils sont morts, ils sont les seuls à mourir sans attenter à la vie d'autrui. Ils sont martyrs, pourquoi ? Parce qu'on les a, et encore aujourd'hui, malheureusement, ça existe dans certains pays, parce qu'on les a placés dans une alternative. Soit, s'ils veulent vivre, eh bien, il fallait qu'ils renient leur foi, soit, s'ils refusent de renier Jésus, eh bien, ils vont mourir. Donc, ça n'a rien à voir. Évidemment, on est d'accord, perdre sa vie, c'est faire le choix absolu de se détourner de son ancienne vie et de ses idoles, de ce qu'on pense être la vérité, en reconnaissant réellement ce qu'on est, pour se tourner vers le donateur de toute vie, donateur de tout bien, celui duquel vient tout don parfait, le Père des Lumières, d'où vient tout don parfait. Et on vient à cette lumière, et forcément, en venant à cette lumière, eh bien, les ténèbres disparaissent. Disparaissent. C'est comme dans la nuit, quand vous vous levez, vous allumez la lumière, eh bien, il n'y a plus de ténèbres. Vous ne vous cognez plus, vous allez là où vous voulez aller parce que vous êtes dans la lumière. Alors, pour revenir à notre texte de Luc 9, là, que j'ai mis en citation, ce mouvement d'abandon, si quelqu'un veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même. Que veut dire il ne doit plus penser à lui-même ? Est-ce que Jésus veut faire de chacun de nous des marionnettes ? Plus penser à soi-même, ça traduit l'expression plus courante qui est ailleurs, où il est parlé de renoncer à soi. Littéralement, se renier soi-même. Alors évidemment, cette traduction porte à confusion. Donc c'est pour ça que les traducteurs ont essayé de trouver des expressions parallèles. Le texte parallèle de Matthieu 8, 34 dit ceci, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Renoncer, se renier soi-même ou ne plus penser par soi-même, ce sont des expressions similaires qui supposent que la vie du disciple de Jésus, elle est définie désormais par celle du maître. Je répète, la vie du disciple de Jésus est définie par celle du maître qui a lui-même renoncé à sa propre vie pour faire la volonté de son Père. Ce n'est pas à proprement parler une théologie du martyr, donc, à laquelle le Seigneur nous conduirait, car même si certains chrétiens ont pu payer de leur vie leur foi, aucune de leurs morts ne fut rédemptrice. Hein, la mort des chrétiens qui sont morts à cause de leur foi ne nous accorde pas le pardon de nos péchés. Leur martyr n'accordera jamais ni pardon, ni vie éternelle, à l'inverse de celle du Christ. D'où notre refus en théologie protestante de prier les saints pour bénéficier de leur mérite. La force de ce texte est de nous amener au jardin de Gethsémané, en réalité, où Jésus a lutté dans sa propre conscience en disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne. Renoncer, voilà donc ce que veut dire porter sa croix, ne plus penser à soi. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est désormais orienter notre pensée, nos désirs, notre imagination, notre créativité, même notre réflexion, notre intelligence, nos vies entières, d'orienter tout cela vers notre Dieu pour lui dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, je veux accomplir ta volonté. Autrement dit, quotidiennement, le processus de repentance nous entraîne à quitter notre ancienne vie, notre ancien modèle de pensée, notre ancienne façon de vivre, pour penser comme Jésus pense, pour aller dans une autre direction. On ne va pas revenir d'où on est parti, mais on va désormais pas à pas vers une autre direction. On quitte un lieu, celui de la perdition, pour en rejoindre un autre, celui du salut. On quitte le lieu de l'hostilité avec Dieu pour rejoindre le lieu de la paix avec Dieu. On est bien dans sa présence, comme on le disait tout à l'heure dans la louange. On quitte le lieu du mensonge pour entrer dans la vérité du Christ. Alléluia. On quitte le lieu où règne le péché pour nous soumettre à la sainteté divine. À la sainteté divine. On quitte les ténèbres de la confusion pour entrer dans la lumière du Seigneur, dans la lumière de sa parole qui nous donne et qui nous décrit tout ce que Dieu veut pour nous, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il attend de nous. Et en lisant cette parole, on découvre même la nature même de Dieu, qui est vérité, qui est lumière, qui est sainteté. Désormais, on vit dans cette lumière. Excusez-moi, j'ai la voix un peu qui part. Alors, si Jésus était là ce matin, et que nous lui posions la question suivante. Maître, que devons-nous faire pour te suivre? Je dis, s'il était là, en chair et en os, hein, voici ce qu'il nous répondrait. Mais d'abord, tu dois abandonner ton ancienne vie, tout ce qui est en tout cas en lien avec ton ancienne vie. Et voici pratiquement ce que tu dois faire et comprendre. As-tu conscience du mal qui t'habite? Connais-tu ton péché? Écoutons cette parole de l'apôtre Paul. « Moi, je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif, captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et puis il nous dirait, deuxièmement, « Maintenant que tu as pris conscience de ça, veux-tu confesser ton péché ? Veux-tu y renoncer? Veux-tu décider de marcher différemment, de te tourner vers moi, de me faire confiance ce matin? Comme le dit le psalmiste au psaume 130, « Depuis les profondeurs, je t'invoque, Seigneur. Entends-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde à mes fautes, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon et la libération. Abonde auprès de toi. » Donc l'attitude vraiment de se tourner vers Dieu. Mais cet abandon donc, dont je parle là n'a de raison d'être que parce que celui qui abandonne, il est attiré par une autre possession. Ce n'est pas simplement abandonner comme si c'était un but en soi, comme une ascèse ou un effort de se priver. Non, la foi chrétienne ne se résume pas et ne peut pas se résumer à de la privation, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce que nous sommes attirés par le Seigneur que nous désirons, parce que nous l'aimons, que nous désirons lui obéir et marcher à sa suite comme Jésus à Gethsémané, non pas ma volonté. Qu'est-ce qui a pu lui donner cette force à Jésus de dire non pas ma volonté, mais ta volonté, sachant d'autant plus qu'il savait ce qu'il attendait. Mais c'est l'amour qu'il avait pour son père. C'est l'amour qu'il avait pour son père. Voilà ce qui a été sa force et ce qui lui a permis d'aller de l'avant et de persévérer. Donc, celui qui a cet amour, il quitte parce qu'il veut rejoindre quelqu'un qu'il aime. Il s'abandonne en quelque sorte pour ne plus appartenir parce que il se débarrasse des encombrants qui l'alourdissent dans sa marche pour aller vers celui vers lequel il veut aller, qu'il aime, pour faire de la place pour accueillir le Seigneur. Donc après le mouvement d'abandon, il y a le mouvement d'accueil, c'est la deuxième partie, le mouvement d'accueil, cette confiance que l'on trouve dans le Seigneur. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, un enfant qui aime son Père. Voilà ce que nous sommes devenus le jour où nous avons abandonné notre ancienne manière de vivre, où nous avons confessé notre péché. Et ce mouvement, eh bien, nous le vivons au quotidien, en tout cas nous devrions le vivre au quotidien, ce mouvement de confiance. La conversion ou retour à Dieu, c'est aussi ce mouvement d'accueil de la présence de Jésus dans nos vies. Nous le recevons dans notre maison, nous l'invitons. Il est notre hôte et un hôte de marque. En Jésus-Christ, nous sommes adoptés par notre nouveau Père. Nous entrons dans une nouvelle famille qui nous reçoit, qui nous accueille, nous aussi, et que nous accueillons. Avoir foi en Jésus, c'est être en Jésus, c'est-à-dire quitter un lieu pour le rejoindre là où il est. Mais il est évident que si nous voulons le rejoindre, nous ne pouvons le faire que là où il se trouve. Si Jésus était là et que nous lui posions la question suivante, mais que dois-je faire maintenant que j'ai quitté ? Jésus répondrait, eh bien, veux-tu me suivre ? Ce que le texte nous dit de Luc, hein, eh bien, porter sa croix, c'est le suivre. Quand les condamnés à mort allaient à leur supplice, ils portaient souvent l'écriteau de leur condamnation. Bien, en réalité, quand nous allons vers notre Père, nous allons vers notre Père parce que nous nous reconnaissons comme des pécheurs et que sans lui, sans Jésus-Christ, nous resterions condamnés à jamais. Mais en Jésus-Christ, nous avons la confiance et la foi qu'il nous conduit auprès du Père, qu'il porte nos prières. C'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Avoir foi en Jésus, donc je disais, c'est être en Jésus, quitter un lieu pour le rejoindre. Si nous décidons de le suivre, c'est parce qu'auparavant nous avons quitté, nous avons abandonné tout ce qui caractérisait notre ancienne vie. Tout cela est du domaine du passé pour nous maintenant. Alors nous pouvons nous attacher à Jésus. Un horizon nouveau se présente à nous. Les choses anciennes sont passées, comme le dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Les choses deviennent nouvelles, elles ont disparu. Elles ont disparu où ? Dans notre identification à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Nous pouvons vivre donc la recréation en Jésus-Christ. Pas la récréation, la recréation, parce que toutes choses sont nouvelles. Tout est possible, désormais à celui qui croit, notamment des changements de vie insoupçonnés, des délivrances, une joie nouvelle, une volonté désormais qui se plie facilement à la volonté de Dieu. Nous devenons enseignables, nous nous laissons modeler, assouplir par le Seigneur. Notre cœur s'attendrit. Notre cœur s'élargit aux autres. Nous étions égoïstes, nous commençons à aimer. Nous commençons vraiment à donner. Alors que nous retenions tout, désormais, nos poches se vident. Nous donnons pour accomplir la volonté de Dieu, tout simplement. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous vivons désormais pour quelqu'un d'autre. Et le corollaire pratique à cette attraction nouvelle est que nous vivons avec d'autres valeurs, celles de l'Évangile. Et c'est bien cela que l'apôtre Paul constate dans la vie des chrétiens de Thessalonique. Cette nouvelle appartenance à Jésus produit dans leur vie énormément de choses nouvelles. Verset 3, ils vivent un christianisme pratique qui témoignent de leur nouvelle appartenance. Regardez le verset 3. Nous nous souvenons, c'est Paul qui parle, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise. Donc, il y a quelque chose de visible. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. C'est ce qu'ils voient, Paul, dans leur vie. L'œuvre, le travail, la persévérance. Donc, voilà un christianisme pratique qui témoigne réellement de cette conversion, de cet abandon des idoles pour se tourner vers le Seigneur. Verset 5, autre caractéristique, le texte nous montre qu'ils ont reçu l'évangile avec le Saint-Esprit. Car notre bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement entendu l'évangile, mais ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu réellement, ils l'ont intégré dans leur vie, dans leur pensée. Ils ont pleinement adhéré aux vérités chrétiennes parce que l'Esprit Saint les a éclairés. Verset 6, le texte nous montre qu'ils ont suivi l'exemple des apôtres et du Christ. Ils ont suivi l'exemple d'hommes de Dieu, d'hommes, bien qu'ils leur avaient annoncé, personne qui leur avait annoncé l'évangile, et au travers de leur vie, ils ont regardé et ils ont compris que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que nous avons un exemple à donner. Ça veut dire que nous devons être des modèles, frères et sœurs. Et que nous pourrions même, inversement, devenir des contre-modèles si nous n'obéissons pas au Seigneur. Et être même, parfois, ce qui est le plus terrible, des contre-témoignages. Donc, ils ont suivi l'exemple des apôtres et du Christ. Verset 6, « Et vous-même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole, au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit-Saint. » En dépit des grandes épreuves qu'ils ont pu traverser, donc certainement des oppositions spirituelles, je suppose, dans la ville même de Thessalonique, ben, comme nous-mêmes, parfois, quand nous témoignons, nous pouvons les vivre, hein, des moqueries, peut-être de l'indifférence, bien Paul leur rend le témoignage qu'en dépit de tout ça, ils ont suivi les préceptes évangéliques, ils ont persévéré, ils n'ont pas remis en question tout cela. Et l'apôtre dit même qu'ils ont imité nous et le Seigneur. Avec la joie du Saint-Esprit. Versets 7 et 8, encore une autre caractéristique. À leur tour, les chrétiens de Thessalonique sont devenus des modèles pour les croyants. À leur tour, ils sont devenus des exemples sur lesquels on pouvait porter, les gens pouvaient porter leur regard pour voir en quoi consistait la vie nouvelle de l'Évangile. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez nous, et pas seulement en Macédoine et en Achaïe. Votre foi en Dieu s'est fait connaître, en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous imaginez ? Autre caractéristique, versets 9 et 10, ils sont habités par l'espérance du retour en gloire de Jésus, l'espérance du retour de la gloire de notre Seigneur. On raconte, versets 9 et 10, et comment vous attendez des cieux son fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ben avant, ils n'attendaient rien du tout, ils se gavaient peut-être, j'en sais rien, ils croyaient à des chimères. Maintenant, ils savent que le Christ ressuscité va revenir et rétablir la vérité dans ce monde et amener toutes choses à la lumière. Ils sont habités par cette espérance. Est-ce que nous sommes habités par l'espérance du retour du Seigneur, où nous attendons eh bien, le temps que le temps passe et qu'on va faire ce qu'on peut à la retraite? Eh bien oui, mais c'est ce qui nous attend. Où on est dans l'espérance? Mais Seigneur, peu importe mon âge, moi je suis à ton service, Seigneur. Tu vas revenir et je veux que quand tu reviendras, tu me trouves œuvrant, comme tu le dis, ce maître qui part, ou ce roi qui part dans la parabole et qui revient trouvant ses serviteurs à l'œuvre. Que le Seigneur, vraiment, nous puissions entendre ces paroles du Seigneur. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Alléluia. Je ne veux pas gâcher mon temps, Seigneur. Je ne veux pas gâcher mon temps, Seigneur. Je veux que mon temps, Seigneur, te soit utile, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans cette vie que de te servir, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Me gaver? qu'il y a de plus intéressant. Pourquoi je suis sur terre, Seigneur? Pourquoi je suis là? Quel sens cette vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je sois connu, que j'ai ceci, que j'ai cela, qu'on me dise, ah, il est super, il est gentil, naninana. Mais qu'est-ce que c'est? On s'en fout de ça. On s'en fout. On est là pour le Seigneur. On a été créé pour aimer Dieu. On a été créé en image de Dieu pour vivre en communion avec lui, pour le servir, pour être des exemples, frères et sœurs, des témoignages qui le glorifient. Mettons notre vie au service du Seigneur. Il nous conduira avec ce qu'on a. Personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit. Le Seigneur conduira nos vies avec ce qu'il nous a donné, avec ce que nous sommes, avec nos faillites, peut-être nos échecs. Mais on veut mettre notre vie au service de Dieu. On raconte comment vous attendez des cieux son Fils, versets 9 et 10, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Oh, oulala. Cette espérance est si forte dans leur vie qu'elle va leur permettre de résister à toutes leurs anciennes croyances païennes. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ont été tentés, comme nous le sommes nous aussi, de revenir de temps à autre à leurs anciennes espérances. Eh bien non, ils ont persévéré. Ils savent que Dieu va juger en Christ toutes les puissances d'égarement et de superstition auxquelles il s'adonnait avant. Au travers de la vie de ses disciples de Jésus, est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, besoin d'entendre à nouveau cet appel à la conversion, à nous détourner de nos idoles modernes et à nous tourner vers le Seigneur? C'est en tout cas ce que nous dit l'apôtre Jacques, et nous allons conclure avec ça dans son épître, au chapitre 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Pleurez, lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Amen. Alléluia. Prions.